Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine dédié au respect de la vie animale. Un rendez-vous en partenariat avec la revue trimestrielle de portée nationale Animaux Bonheur, présent dans tous les kiosques de France. Aujourd'hui, pour la sortie du nouvel exemplaire, nous allons détailler en compagnie de Sylvie Attard, rédactrice en chef du magazine, les différents dossiers parus dans ce nouveau numéro. À commencer par la chronique de Brigitte Bardot, qui tire la sonnette d'alarme sur un signe extérieur de cruauté. Il s'agit de la fourrure. Elle dénonce les pratiques cruelles pratiquées sur des animaux dits d'élevage. Les collections de grands couturiers, notamment français, relancent une tendance à se parer de fourrure. Les précisions des conditions ignobles de cette industrie sont expliquées dans un instant. Puis nous passons à la page santé chien-chat des conseils du docteur Flore Ozen, à ne pas manquer. Toujours dans la rubrique santé, Sylvie Attard nous explique le dossier « Le chien en bonne santé naturellement », un chapitre sur la médecine alternative. Des solutions douces par les plantes sont utiles pour l'hygiène de votre animal de compagnie. Des conseils prodigués par Céline Gastinel-Moussour, vétérinaire. Animaux Bonheur, c'est également des dossiers sur la vie sauvage, un document complet sur les petits félins en voie de disparition menacés par l'exploitation humaine. Juste après, un témoignage de la chanteuse Pauline sur sa relation avec ses chats. Enfin, nous clôturons ce numéro du mois de janvier par de la philosophie, plus précisément la philosophie de l'animalité, un sujet abordé dans Animaux Bonheur. La philosophie s'empare de la question animale pour construire une société plus juste pour les humains et les non-humains. Tous ces sujets figurent dans le nouvel exemplaire de Animaux Bonheur, en kiosque depuis le 20 décembre. Pour les détails de tous ces dossiers, tout de suite, Sylvie Attard, rédactrice en chef du magazine, nous accorde un entretien par téléphone. Sylvie Attard, ce nouveau numéro de Animaux Bonheur, comme à son habitude, apporte différents témoignages, des conseils santé, des astuces pour le bien-être des animaux. Mais Animaux Bonheur se fait également le porte-voix de la cause animale maltraitée, menacée, confrontée à une certaine barbarie des hommes. Brigitte Bardot signe une chronique à chaque sortie du magazine. Elle tire la sonnette d'alarme sur une tendance qui revient. Laquelle ?
Oui, en effet. Alors déjà, nous sommes très heureux que Brigitte Bardot contribue à faire évoluer notre magazine pour protéger effectivement tous les animaux grâce à sa chronique qui va paraître dans chacun des numéros. Dans celui-ci qui est en kiosque actuellement, elle dénonce la fourrure qui, curieusement, continue d'augmenter alors qu'elle n'a plus lieu d'exister puisqu'il existe de très belles imitations. Voilà, donc dans le numéro qui vient de paraître, elle crie, elle envoie la sonnette d'alarme pour effectivement demander à ce qu'on arrête l'exploitation de la fourrure.
Alors, ce qu'elle décrit, c'est quand même c'est effarant, quoi. Pour la collection d'un manteau, les quantités de peau sont importantes, un chiffre impressionnant. Pour satisfaire les caprices de la mode, globalement, ça représente combien d'animaux pour un manteau ?
Alors déjà, il faut savoir que ça représente 56 millions d'animaux par an. Et comme je vous le disais précédemment, les chiffres augmentent chaque année, et une hausse à peu près de 10%. Et pour reprendre les chiffres indiqués par Brigitte Bardot, pour un seul manteau de vison, il faut au moins 60 animaux. C'est pareil, il faut 10 lynx ou encore 15 renards, toujours pour un seul manteau. Donc, sans compter que beaucoup d'animaux sont tués sans même que leur peau soit utilisée. Ou simplement en garniture. Donc, c'est vous dire la façon dont on considère les êtres vivants doués de sensibilité. Voilà, nous sommes quoi, nous les humains, si ce n'est des êtres vivants doués de sensibilité. Je ne vois pas comment nous pourrions imaginer faire cela à des êtres humains. Alors, pourquoi pour satisfaire les caprices de la mode, on tue autant d'animaux? Ça me paraît effarant.
Et d'autant qu'on minimise ce drame sous prétexte que c'est tendance, mais surtout en disant que ce sont des animaux d'élevage. L'argument est plus que léger, pour ne pas dire hypocrite.
Complètement, oui, tout à fait. D'ailleurs, Brigitte Bardot parle d'hypocrisie dans sa chronique, et elle a bien raison, parce que on a tendance à se réfugier derrière l'élevage pour cautionner ce genre de cruauté, alors que les élevages, c'est également de la souffrance animale et une abomination. Il faut savoir qu'en en France, 70% de la fourrure d'élevage est produite en France au niveau de l'Europe. Mmh. Donc voilà, personnellement, moi je suis sidérée par un tel carnage. Au nom de quoi ? De l'esthétisme et du profit, c'est-à-dire la futilité du monde dans lequel on vit.
Exact, oui. Dans la chronique donc, de Brigitte Bardot, elle parle également des conditions tellement déplorables. Les renards, les visons sont détenus dans des cages. C'est tout juste s'ils arrivent à bouger, au point d'entraîner des malformations sur ces animaux. Quel type de malformations ont été observées, notées ?
On note des malformations au niveau des pattes. Les cages sont exiguës et le sol est en grillage parce que comme ça, les excréments ne salissent pas la fourrure, n'est-ce pas ? Puisque la fourrure est plus importante le bien-être de l'animal. Et puis, pour obéir aux caprices de la mode, comme vous le disiez, aux contraintes de teinte et de texture, par exemple, on va choisir les reproducteurs, ce qui peut provoquer à la longue du désordre génétique. Mmh. Et le vison, notamment, peut souffrir de cécité, de surdité, des paralysies postérieures ou encore des malformations au niveau des organes sexuels. Tout ça avec de la souffrance.
Et oui, terriblement, oui. Mais ça ne se limite pas aux malformations. Des états ou comportements névrotiques ont été observés, n'est-ce pas ?
Oui, exactement. Donc, on a pu noter des automutilations. Les femelles tuent leur progéniture. Les animaux se mordent la queue, s'autodévorent. C'est juste ignoble.
Ils se jettent même contre les parois.
Oui, parce que comment voulez-vous un animal qui est emprisonné à la base, je ne vois pas comment le bien-être.
Comme on dit couramment, il finit par péter les plombs.
Voilà, exactement.
Et ce qui marque la réelle souffrance de l'animal.
Oui, les troubles du comportement témoignent de cette souffrance, tout à fait. Mmh. Et comment voulez-vous qu'il en soit autrement dès lors que leur instinct naturel n'est pas respecté. Mmh. Ils ont besoin d'espace, on les enferme dans des cages.
Mmh. La maltraitance ne s'arrête pas à ce que nous venons d'évoquer, elle est à différents niveaux. La reproduction des femelles est loin d'être faite en douceur également.
Hélas non, puisque les animaux sont voués à souffrir jusqu'au bout, continuons. Donc, comme l'écrit Brigitte Bardot, les femelles sont sorties de la cage avec une fourche, puis elles sont maintenues pour être inséminées. Puisque l'accouplement forcé dans un milieu artificiel provoque souvent des affrontements, donc entre renards par exemple. Donc voilà, on les insémine de cette manière, toujours dans la souffrance.
Alors, avec un brin d'ironie, face à de tels agissements, on ne peut que leur souhaiter l'exécution pour que toutes ces pauvres bêtes puissent enfin respirer. Et ça se fait par le gazage.
Oui, tout à fait, exactement.
Et là, on observe une souffrance vraiment atroce, là.
Oui, on continue effectivement dans la souffrance. Pourquoi voulez-vous que ça change après tout, hein ? On gaze des êtres vivants doués de sensibilité comme l'humain. Ça en dit long quand même. Hein. Oui. Je le répète parce que le mot animal semble moins émouvoir. Les visons, on a pu observer des visons qui courent frénétiquement, pour reprendre les termes de Brigitte Bardot, qui cherchent à maintenir la tête au-dessus du niveau de gaz. Ça en dit long sur leur souffrance et sur leur envie de vivre. Donc,
L'instinct de survie, oui. Alors, sans vouloir grimper dans l'horreur, mais cela mérite vraiment qu'on en parle. Sur un manteau qui a un col en fourrure d'une certaine épaisseur, on peut deviner de quelle façon l'animal a été exécuté. C'est bien ça ?
Oui, en quelque sorte, parce qu'il y a une autre méthode qui consiste à électrocuter l'animal en lui introduisant donc une électrode dans l'anus et une autre accrochée à sa gueule ou son museau, et on lui envoie un courant de 1000 volts qui est censé tuer l'animal sur le coup. Sauf que, comme c'est un être vivant, est sensible, il se débat. Et là, ça occasionne encore de la souffrance et le bourreau doit s'y reprendre plusieurs fois avant de parvenir à l'électrocuter.
Alors, on va s'éloigner un peu de l'élevage qui met en place toutes ces souffrances. Mais il y a également les trappeurs.
Oui.
Et avec eux, c'est, j'ai envie de dire, même traitement. Les souffrances s'étalent sur plusieurs jours.
Oui, parce que l'animal est piégé. Donc, pour se libérer, il va tenter de se ronger la patte. Il va attendre Il va attendre le trappeur pendant plusieurs jours, donc il ne va pas manger, il ne va pas boire et il va endurer une souffrance atroce en attendant d'être, d'être abattu. Donc voilà, c'est formidable. Et puis sans compter que ces pièges ne font pas dans le détail, donc il y a des dommages collatéraux, comme on dit, et ces pièges vont tuer d'autres animaux qui ne sont pas ciblés à la base.
Dans cette chronique de Brigitte Bardot que l'on retrouve à chaque numéro, elle nous donne des conseils pour être solidaire avec ces animaux et pour que toutes ces pratiques cessent. Il y a trois attitudes à adopter. Elles sont simples. Lesquelles ?
Bien, ne pas acheter de la fourrure, ne plus offrir de fourrure et ne pas accepter de la fourrure en cadeau. En résumé, ne pas se rendre complice de cette barbarie.
Parce que ainsi, ça forcera l'industrie à abandonner cette tendance et rappeler justement aux consommateurs qui peut devenir consomme-acteur et exactement. Son achat a un pouvoir.
Voilà, plus que jamais, on a un rôle à jouer en tant que citoyen. Il est important de ne pas minimiser notre pouvoir en tant que consommateur. Il suffirait simplement de ne plus acheter de fourrure.
Et plus, ne plus en offrir aussi. Et ne pas accepter.
Pardon, et ne plus en offrir et ne pas en accepter. Enfin, exactement. Si personne n'en achetait, voilà, il n'y aurait pas de cadeau et voilà, en sachant qu'en plus, ce geste n'a aucune incidence sur notre vie. On n'a pas besoin de fourrure aujourd'hui.
Et d'autant qu'on a pu fabriquer aussi de la fourrure synthétique.
Oui, il existe des imitations qui sont extrêmement, extrêmement belles. Donc vraiment, c'est inconcevable aujourd'hui qu'on continue avec de la fourrure animale. Voilà, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que nous, humains, on est encore des êtres doués de sensibilité ?
Sylvie Attard, après la maltraitance, pour ne pas dire la barbarie, passons à la bienveillance et aux petits soins que le docteur Flore Ozen détaille avec une vraie pédagogie. Elle nous livre des astuces pour remédier à certains maux dont souffre notre animal de compagnie. Un chien adulte, par exemple, qui vomit toujours lors d'un déplacement en voiture, c'est dû à quoi et que devons-nous faire ?
Alors, en général, ça traduit une anxiété de la part du chien, notamment si celui-ci est adulte et qu'il continue de vomir. Donc, parce que le chiot peut vomir et ça peut passer en grandissant. En fait, il faut l'habituer, le mieux c'est de l'habituer très vite à prendre la voiture, d'abord sur des petits trajets. On peut ouvrir la fenêtre aussi et ne pas trop chauffer la voiture, pour pas qu'il ne se sente trop mal. On peut, par exemple, commencer des trajets qui vont le mener à une balade pour lui faire associer le transport au plaisir. En revanche, si les vomissements persistent, il existe des médicaments contre le mal des transports qui peuvent être prescrits par le vétérinaire.
Alors dans ce dossier santé chien-chat, le docteur Flore Ozen parle également de la gastro-entérite chez le chien, des tremblements des cuisses, toujours chez le chien, après une promenade ou un jeu. Elle parle de la gingivale chez le chat, ce sont les gencives qui enflent, jusqu'aux convulsions des petits félins. Dans le cas des convulsions, que doit-on faire quand cela arrive ?
Alors dans ce cas, le docteur Ozen préconise de ne pas stimuler le chat, de le maintenir au calme en fait et dans l'obscurité. Ça ne sert à rien de chercher à maintenir sa langue parce qu'il ne va pas risquer de l'avaler et ça peut être dangereux en plus. Par contre, une fois calmé, il convient de l'emmener évidemment chez le vétérinaire. Voilà, sachant que la cause est peut-être liée à une lésion cérébrale, pardon, comme un traumatisme crânien par exemple, une anomalie sanguine ou encore une crise d'épilepsie.
Autre dossier, le chien en bonne santé naturellement. Les plantes regorgent de multiples bienfaits pour nos chers toutous. Céline Gastinel-Moussour, vétérinaire et spécialiste des soins par les plantes, apporte des conseils pour bien les utiliser et surtout savoir faire le choix le bon choix de la plante et de son utilisation.
Oui, effectivement, les plantes peuvent être utilisées en soins de complément, parfois en soins de substitution, parfois en soins d'hygiène et également en soutien au travail des comportementalistes. Mmh. En effet, elles vont contribuer à apaiser l'animal ou encore en cas de nausée. Donc, elles sont vraiment très, très utiles.
Et justement, le fait que l'animal soit apaisé, il va être plus réceptif justement au...
Voilà, au travail et ça va aider par la même le comportementaliste lui-même en fait.
Mais il est quand même important de préciser à toutes celles et ceux qui sont avec nous que les plantes ne soignent pas tout.
Non, effectivement, le docteur Gastinel-Moussour, d'ailleurs, le précise bien, notamment en soins de substitution. Et il faut savoir également que, comme toute molécule active, les plantes peuvent aussi avoir des effets négatifs. Donc, il convient de bien les connaître et de consulter éventuellement un vétérinaire. Mais par contre, elles se montrent en revanche très efficaces, notamment lorsqu'une maladie a été diagnostiquée.
Il y a une plante qui agit efficacement, et ce, dans différents cas ou différents mots?
Oui, il y en a plusieurs, je pense. On peut parler de l'aloe vera, par exemple, dont on connaît aussi les bienfaits pour l'homme. Alors, localement, il va aider à la cicatrisation et à l'hydratation de la peau. Absorbé par la bouche, il va contribuer à la cicatrisation des plaies, toujours, mais il va en plus réguler le transit intestinal, améliorer la digestion des protéines et l'immunité. Donc, c'est bien les bienfaits.
Tout le monde peut concocter soi-même ses propres recettes à base de plantes. Si oui, où peut-on s'en procurer également ce type de plantes?
Alors oui, tout le monde, à condition de bien connaître les plantes et d'avoir, je dirais, l'habitude de le faire déjà pour soi-même. On peut trouver les ingrédients chez l'herboristerie, en pharmacie.
Tout simplement, oui.
C'est pourvu d'un rayon en herboristerie également, dans les magasins bio. Par ailleurs... alors, Céline Gastinel-Moussou recommande toutefois de faire attention à la provenance des produits. Dans son interview, elle nous liste les indications qui doivent figurer au moment de l'achat. Et pour ceux qui ne sont pas à l'aise, elle formule elle-même ses produits, garantissant ainsi la qualité des produits.
Alors, Céline Gastinel-Moussour, vétérinaire et spécialiste des plantes, des soins par les plantes, pardon, donne des astuces dans cette rubrique. Elle préconise la tisane refroidie incorporée dans l'alimentation de l'animal. On joint l'utile à l'agréable, c'est ça?
Eh bien oui, oui, parce que on peut se demander en effet comment faire ingérer des plantes à un chien. A priori, c'est même plus facile que de faire ingérer des plantes à un chat. Le chien est plus réceptif. Donc en effet, en mélangeant aux ingrédients, ça va être plus facile pour lui à ingérer. Et la tisane reste la préparation la plus simple.
La plus simple, oui, et que tout le monde connaît.
Voilà.
Le dossier Petit Félin également figure dans ce nouveau numéro. Des espèces sauvages aussi magnifiques les unes les autres, en l'occurrence les petits félins. Il y a le chat pêcheur, le chat à tête plate ou encore le chat ocelot. Des espèces méconnues et pourtant menacées d'extinction. Pardon. C'est dû à quoi? Je reviens. Est-ce qu'on peut revenir à la fourrure ou est-ce que c'est causé à l'urbanisation ou que sais-je?
Ben, aux deux. Alors, il y a l'exploitation de leur fourrure, effectivement, qui est l'une des menaces qui pèsent sur ces petits félins, mais pas uniquement. Comme vous le disiez, il y a l'urbanisation. Ils sont victimes de l'activité humaine en général, hein, qui détruisent leur habitat. Il y a la déforestation, l'accroissement des terres agricoles, notamment. Les plantations de palmiers à huile, bien sûr, qui détruisent les forêts primaires, sont très préjudiciables. Après, il y a le braconnage, la consommation de leur chair, l'utilisation de leurs os dans la médecine traditionnelle chinoise, qui contribue également à leur diminution. Il y a également le croisement avec des chats domestiques qui peut provoquer l'appauvrissement de leur patrimoine génétique, sans compter que les chats utilisés proviennent souvent du trafic illégal d'animaux sauvages. Bref, pour résumer, l'activité humaine, bien sûr.
Alors, dans ce dossier qui leur est consacré, hein, aux petits félins, Geneviève Hamelin, auteure animalière passionnée, répond donc aux questions d'Animaux Bonheur. Quelles sont les associations et groupes de travail qui œuvrent sur le terrain? D'ailleurs, quand je dis sur le terrain, ces espèces évoluent où exactement?
Alors, effectivement, Geneviève Hamelin a consacré un très beau livre avec de magnifiques photos et on peut se rendre compte à quel point ces petits félins sont beaux, afin de sensibiliser l'opinion parce qu'ils restent très peu connus. Il faut savoir qu'ils vivent en Europe, en Afrique, en Amérique et en Asie. Voilà, en France, par exemple, on va trouver le chat forestier, qui est le cousin du chat sauvage, et le lynx boréal. Alors, parmi ces associations et groupes de travail, il y en a beaucoup. Geneviève Hamelin les cite dans l'interview qu'elle nous a accordée. On peut noter Charles Flao, pardon, qui étudie le chat forestier, David Barclay, la Société royale de zoologie d'Écosse, ou encore Ferrus, le centre Athénas, enfin, toutes.
Et justement, ces associations qui travaillent comme ça, ces groupes de travail, ils agissent pour être efficaces. Quel type de méthode ils emploient?
En fait, ils se chargent d'étudier les petits félins afin de mieux les connaître, pour mieux les protéger, tout simplement. Ils vont partir en expédition pour les observer. Ils vont rechercher de nouvelles données scientifiques sur leur nombre et leur mode de vie pour tenter par la suite de contrer les menaces qu'ils encourent.
Ont-ils un avenir, ces petits félins menacés d'extinction? Les pays concernés dans lesquels ils évoluent, ils se préoccupent de cette menace?
Alors, il y a certaines espèces qui sont protégées, comme le chat forestier en France, par exemple, ou le chat des sables, le chat de Pallas, ou encore le lynx boréal, mais d'autres, en revanche, sont en voie d'extinction, comme le lynx pardel, par exemple. Leur avenir reste donc menacé, oui. Et leur préservation nécessite des mesures à l'échelle internationale, comme le stipule Geneviève Hamelin. Et en attendant, le travail de sensibilisation et le soutien des associations de terrain restent primordiaux pour leur préservation.
Sylvie Attard, revenant aux animaux de compagnie, la chanteuse Pauline, à qui vous consacrez donc une interview, elle fait part d'une douloureuse expérience, hein, un tragique accident dont a été victime l'un de ses chats.
Oui, tout à fait. Pauline est passionnée depuis son enfance par les chats. Elle en a plusieurs, dont Didi et sa sœur Tibac. Et c'est malheureusement Tibac qui a été victime d'un tragique accident. Donc en fait, alors que Pauline s'apprêtait à partir en démarrant sa voiture, elle s'est rendue compte trop tard que Tibac s'était réfugié dans le moteur,
aïe.
Sans doute pour se réchauffer. Donc la pauvre est morte en quelques secondes. Et ce drame a plongé Pauline dans un profond désarroi. Elle a été très choquée par cet événement et a eu beaucoup de mal par ailleurs à l'évoquer. Elle ne savait pas que des petits animaux comme des chats étaient susceptibles de se réfugier dans le moteur des voitures. Et elle a accepté aujourd'hui de partager ce douloureux événement afin d'informer sur un tel risque et nous permettre d'augmenter notre vigilance. Et nous la remercions pour ça d'ailleurs.
Et oui. Et d'ailleurs, elle dit dans cette interview l'impact de cette brutale disparition sur ses autres chats. Elle a observé une attitude complètement changée.
Oui.
Ils étaient en phase de deuil.
Alors ça, je sais
pas.
Enfin,
c'est moi qui le qualifie.
Alors oui, effectivement, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, Pauline a pu constater en effet un changement de comportement chez la sœur de Tibac, dans Didi, qui, d'ordinaire très indépendante, est devenue très collante avec Pauline. Elle suppose que c'était également dû à son changement de comportement à elle, chercher à combler un manque quelque part. En tout cas, il n'empêche que les premiers jours, Didi allait et venait comme si elle cherchait sa sœur. Donc, forcément, effectivement, un ressenti, quel qu'il soit.
Alors, dans ce nouveau numéro, il y a un dossier consacré à la philosophie de l'animalité. C'est une vision de la société, politiser la défense animale, seule alternative pour construire une société plus juste pour les humains et les non-humains. Une thèse défendue par les philosophes Donaldson et Kim Lika dans un ouvrage. Pour eux, la mort d'un animal doit devenir inimaginable. Corinne Peluchon, philosophe également, elle répond à vos questions dans ce dossier. Sylvie Attard, cette approche de l'animalité défendue dans cet ouvrage que j'ai évoqué, « La mort d'un animal doit devenir inimaginable », sous quel angle c'est perçu?
Alors en fait, les choses ne peuvent pas changer du jour au lendemain à cause des différents facteurs comme les lobbies de la viande, les traditions que beaucoup ont du mal à remettre en cause, une économie basée essentiellement sur l'exploitation animale. Il n'empêche que sur le long terme, la mise à mort d'un animal n'ira pas de soi, selon les philosophes et Corinne Peluchon. Aujourd'hui, la consommation de viande est outrancière et la pollution qu'elle engendre est néfaste pour la planète. Donc, ce facteur déjà va nous obliger à revoir notre consommation. Faut savoir qu'on fait naître des animaux pour les tuer et pour les manger. Il n'y a pas de chaîne alimentaire là-dedans. Rien ne justifie aujourd'hui la mise à mort d'un animal. On peut se passer de la viande. Les traditions cruelles comme la corrida nous renvoient, je dirais, à notre archaïsme plutôt qu'à une quelconque grandeur régionale. L'exploitation de la fourrure, les cirques, la chasse, la pêche, tout cela n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Donc il est normalement envisageable que sur le long terme, la mise à mort d'un animal ne puisse plus être envisagée comme c'est toujours le cas malheureusement aujourd'hui.
Alors, Corinne Peluchon axe sa vision sur une politisation de la question animale. Les politiques s'agitent beaucoup en ce moment, on entend beaucoup parler de ce sujet. On n'entend pas parler de ce sujet. On sent que cela ne fait pas partie de leurs préoccupations.
Non, d'ailleurs, Brigitte Bardot le déplore dans l'interview qu'elle nous a accordée dans un précédent numéro. Certains défendent même les traditions. Comme la chasse ou la corrida, c'est vous dire. Donc, il y a quand même un candidat qui l'a évoqué de manière claire et a promis d'agir en ce sens. Reste à voir concrètement ce qui peut être fait, mais d'une manière générale, le sujet intéresse encore très peu les politiques. Alors après, si vous voulez vous tenir au fait de ce que du point de vue des politiques à ce niveau-là, l'association FDSO 14 anime un site animal et politique qui permet de voir quels sont ceux qui ont la volonté ou non d'agir en faveur des animaux. Voilà. Puis un parti animaliste aussi qui vient d'être créé et qui souhaite mener des actions pour que les candidats s'engagent enfin en faveur des animaux.
Je reviens à Corinne Peluchon, philosophe que vous avez interviewée dans ce nouveau numéro. Pour elle, quelles sont les limites de cette philosophie, de cette thèse qui est défendue par les deux philosophes donc, qu'elle évoque dans son interview ?
Alors, Corinne Peluchon explique qu'on ne peut attribuer le statut de citoyen aux animaux domestiques dans la mesure où ils ne peuvent pas faire partie d'une communauté politique, ils n'ont pas de devoir. Mais par contre, elle salue le travail de Donaldson et Kimika parce que cette perspective permet de mettre en lumière le fait que les animaux doivent avoir des droits et que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec eux. Voilà, on n'est plus dans la dénonciation, comme elle le dit dans l'interview, on n'est plus dans la dénonciation de la cruauté envers les animaux, mais bien dans l'élaboration d'une véritable théorie politique qui permet d'imaginer une équité entre l'humain et l'animal. Donc voilà, la seule limite, c'est qu'on ne peut pas effectivement les classer parmi les citoyens, mais cela n'enlève en rien les droits qui doivent leur être conférés.
Exactement.
Le point de départ et leur capacité à communiquer leurs intérêts. Voilà.
Pour conclure, Sylvie Attard, l'année 17 s'annonce électrique. Les associations et refuges n'ont jamais pris en charge autant d'animaux abandonnés et en souffrance. Le moyen de rester informé au plus juste, ça reste votre magazine, en s'abonnant à Animaux Bonheur, un magazine libre et indépendant, de façon à rester au plus près de l'information dédiée à la cause animale, n'est-ce pas ?
Et oui, exactement. En plus, comme vous le disiez, effectivement, nous sommes libres et indépendants, donc... Cela nous permet de pouvoir diffuser toute information nécessaire à faire avancer la cause animale.
Sylvie Attard, merci. Merci. Nous ne manquerons pas de nous plonger dans ce nouveau numéro de Animaux Bonheur en kiosque depuis le 20 décembre. Merci Sylvie Attard.
C'est moi qui vous remercie.
C'était Animaux Bonheur, votre magazine trimestriel en vente dans toute la France, dans tous les points presse. Une multitude de sujets sont abordés, des astuces, des soins à base de produits naturels conseillés par des vétérinaires. Dans ce nouveau numéro, un grand dossier consacré aux chats, 10 questions sur les chats, toute l'actualité de la cause animale, mieux comprendre et mieux défendre les animaux, des réponses aux questions posées par les lecteurs au docteur Serge Arnaud et le docteur Bruno Thune, des explications sur les comportements à adopter, des recettes, des fiches pratiques et un grand poster est offert à chaque sortie. Actuellement, il s'agit d'un poster d'un tigre sauvage magnifique. Sachez que le magazine Animaux Bonheur vous offre chaque trimestre des abonnements annuels. Pour cela, rendez-vous sur notre page Facebook, la page FM+. Une question simple est posée. Les 5 premières bonnes réponses remportent un abonnement d'un an. Prochain rendez-vous avec Animaux Bonheur, ce sera en fin mars. Bye bye.